vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
C'est quoi un procureur? C'est quelqu'un qui mène à charge, finalement. C'est pas un juge d'instruction. Il n'y a que la charge qu'il retient. Et nous serions tous donc des procureurs. Rida, qui habite Strasbourg.
Oui, bonjour Pascal,
bonjour. Rebonjour, rebonjour.
Tout d'abord, si vous me le permettez, effectivement, le procureur, c'est celui qui porte l'accusation, mais c'est aussi le garant le représentant de la société. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui porte que l'accusation. Il est déjà arrivé que des procureurs déchargent, malgré le dossier, des gens contre qui ils n'ont pas forcément de moyens de poursuivre. Ça, c'était juste une petite introduction. Alors, concernant les propos du président hier, alors effectivement, ils sont peut-être brutaux, ils sont peut-être dans le contexte, ils sont peut-être maladroits, mais en tout état de cause, ils sont tout à fait justifié. Effectivement, il y a 66 millions de procureurs en France aujourd'hui. On ne peut pas dire le contraire. Chacun porte...
Mais moi, j'ai le sentiment contraire. J'ai le sentiment que les Français acceptent plutôt les mesures qui sont prises et c'est conforté dans les sondages, qu'ils sont plutôt résilients, plutôt disciplinés, plutôt sages. Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement des voix qui s'élèvent, mais assez peu même, et même sur le plan politique... Des leaders politiques qui proposent une solution alternative ou une politique alternative à la séquence, j'en entends pas beaucoup.
Ouais, mais après, par rapport à ce que vous venez de dire, ça reste des politiques. Effectivement, je pense que certains politiques jouent la carte de l'opinion publique et essayent de proposer des choses.
Mais vous, vous avez le sentiment d'être procureur, par exemple ?
Bah oui, à ma manière, à mon niveau, mais je tempère mon réquisitoire, en tout cas dans cette période, et je le garde pour moi, ou si je l'exprime, je l'exprime de manière...
Et vous avez le sentiment que les gens autour de vous sont très critiques
Ah oui, Ah oui, il n'y a pas un jour, en tout cas moi vous savez, je travaille dans les transports en commun, du monde j'en rencontre, que ce soit au niveau de mes collègues, des clients que je contrôle, il y a toujours quelqu'un qui porte une forme de réquisitoire ou une forme d'accusation sur les moyens, les moyens mis en œuvre pour lutter contre la maladie ou la pandémie. Alors peut-être que ça se fait à bas bruit, pour reprendre les termes du président, mais en tout cas, ça commence à frémir.
Bah merci Arida de cette première intervention. Gilles est là également, Gilles qui habite la Seine-et-Marne. Est-ce que vous partagez, bonjour Gilles, l'avis de Rida et l'avis du président de la République?
Oui, quand vous parlez d'acceptation des Français, si vous voulez, il y a les choses qu'on accepte parce qu'on n'a pas tellement le choix. Et je ne suis pas convaincu que l'acceptation implique l'adhésion. Et je pense que notre président, en fait, c'est un petit peu un affichage de désarroi. Il découvre que le pouvoir, quand on est chef de l'État, c'est que tout ce qui merde en dessous de vous, c'est de votre faute. Or, on a une bureaucratie pléthorique. En gros, il y a des décisions qui sont prises de façon absolument incohérente. Et le président découvre à sa grande stupéfaction que quand il donne un ordre, eh ben, ceux qui sont en bas, ils le suivent ou ils le suivent pas et qu'il peut pas faire grand chose contre.
C'est ce qu'il appelle l'état profond et la difficulté de mettre une administration en branle.
Mais c'est là où on constate le manque d'expérience parce que sans vouloir offenser le président de la République, qui est un génie incompris, on va dire ça comme ça, ce qui explique ces petites phrases comme ça où il a du mal à comprendre qu'on ne le comprenne pas et qu'on n'adhère pas à tout ce qu'il dit.
En fait, par analogie, il voulait dire 66 millions de sélectionneurs. C'est ça la phrase qui est souvent dite.
Ça va plus loin que ça, Pascal, parce qu'en fait, quand vous prenez son ministre de la Santé, il a quand même demandé aux députés de quitter l'Assemblée nationale parce qu'ils étaient en désaccord avec lui. Donc, en gros, il a un problème d'ego et un problème d'acceptation de la critique. Et si je vais plus loin dans le raisonnement, quand vous êtes une compagnie aérienne, vous ne mettez pas un pilote qui sort de l'école aux commandes comme commandant de bord d'un 747. Or, en France, c'est exactement ce qu'on a fait.
Je vous rappelle quand même que ça s'appelle la démocratie et c'est une élection. C'est-à-dire que il n'a pas été nommé Emmanuel Macron. Il est allé la chercher, cette victoire.
Certes, mais ça appelle quand même des questions sur le fait que peut-être un président de la République devrait avoir un minimum d'expérience affichée avant de pouvoir prendre le poste.
En tout cas, je lisais la presse allemande ces dernières heures, et j'en lisais en tout cas la traduction, c'est les mêmes débats. Rassurez-vous, elle tire à boulet rouge sur l'exécutif, et elle émet en gros les mêmes critiques, et notamment sur les critiques de logistique. Donc on s'aperçoit quand même que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et que les exécutifs sont assez malmenés actuellement en Europe, même s'il y a une adhésion parfois plus forte de la population qu'en France. Merci Gilles, en tout cas. Vous allez pouvoir rester avec nous.
Oui.
Greg Caranoni est là avec Damien Béchiot. Je le salue.
Bonjour,
à 13h07.
Bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour, tout va bien ?
Très bien. Quand vous disiez que vous aviez lu la presse allemande,
oui,
j'étais totalement bilingue.
Non, justement, je disais dans sa traduction, je ne voulais pas faire le malin. J'ai fait 7 ans d'allemand et j'ai du mal à me souvenir exactement de ce que j'ai appris.
Je vous surestime.
Finish ein kleines Kind, lerne ich Deutsch. 13h07, la pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est l'époque des petites phrases et c'est vrai qu'elle fait réagir, cette petite phrase, 66 millions de procureurs. Je me demande toujours dans ces cas-là si le lendemain il regrette, si ça lui a échappé, s'il l'avait écrite avant. J'imagine que ça lui échappe un peu et ça prend des proportions folles parce que effectivement il est président de la République. Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal.
Mais il n'y a peut-être pas non plus à matière à faire 3 heures là-dessus.
Eh bien justement, réécoutons cette petite phrase d'Emmanuel Macron.
Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est pas comme ça qu'on fait face aux crises ou qu'on avance. Et donc, chacun fait des erreurs chaque jour.
Emmanuel Macron a-t-il raison ? Avez-vous le sentiment d'être un procureur ? Les Français jugent-ils en permanence ? Eh bien, pas de polémique pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il était l'invité de RTL ce matin.
Il faut au contraire voir ça comme cette expression dans le contexte dans lequel elle a été utilisée comme une forme d'amour de notre pays et d'envie de, aussi qu'on progresse par plus de cohésion et d'unité.
C'est beau l'amour.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment de la langue de bois, mais pure et dure. Ah, mais c'est une preuve d'amour de traiter les Français de procureurs.
Est-ce une preuve d'amour ? La France est-elle devenue une nation de 66 millions de procureurs ? Yves parle d'une déclaration irresponsable et méprisante sur nos réseaux sociaux. Un dérapage de plus pour Emmanuel Macron, critique Thomas. Que fait-il de la liberté d'expression, demande Christophe. Et décidément, on va rajouter Marie-Françoise. Après les Gaulois réfractaires, les fainéants, maintenant les procureurs, nous sommes servis. Et oui, écrit Cécilia, nous critiquons les décisions car cela nous impacte directement entre les masques, la stratégie vaccinale, il y a de quoi critiquer. Mais Axel Pascal se lance dans la défense d'Emmanuel Macron. Le président a raison, la critique est facile. Le français râle tout le temps, soupire Patrick, jamais content, jamais le sourire. Oui, je le dis haut et fort, le gouvernement est à la hauteur.
Pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il y a des réactions excessives. Et puis on sent également que Jean-Michel Blanquer, il est un petit peu ennuyé aux entournures. C'est-à-dire qu'il dit un truc qui n'a aucun rapport avec le mot procureur. Il dit non, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, il faut le prendre vraiment comme ça. Bon, Evelyne, Gilles avait terminé. Gilles, je vous dis au revoir. Ou vous souhaitez rajouter un petit mot ?
Non, ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'en fait, tout ça quand même devrait amener la question, c'est est-ce qu'il y a une chaîne de pouvoir qui fonctionne ? Chez les militaires, quand l'inférieur ne fait pas les ordres du supérieur, il est puni. Dans le privé, on vous convoque dans le bureau pour vous expliquer que si vous jouez pas collectif, bah vous allez vous retrouver au placard ou à la porte. Et dans l'administration française, bah en gros, vous faites ce que vous voulez, puis de toute façon, on peut pas faire.
Mais il y a des engagements quand même. Là, le ministre Véran, hier, et on en parlera tout à l'heure, la phrase d'Olivier Véran, 4 millions fin février, 9 millions au mois de mars, 20 millions à la fin d'avril, ce sont le nombre de vaccinés, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du mois de juillet, 70 millions à la fin du mois d'août. Donc si il ne répond pas à cette promesse-là, ben on pourra lui ressortir. Donc oui, ça sera assez simple. Là, il s'est engagé. C'est pas mal d'ailleurs qu'il s'engage d'une certaine manière. Il donne des objectifs.
Véran, il ment pas plus d'une fois à la fois. En gros, il a pris des engagements. Si on faisait le florilège de toutes les conneries qu'il a racontées depuis qu'il est ministre, franchement, il y aurait de quoi faire un sketch des Guignols qui dure 1h30. On pourrait faire un film.
Bon, Gilles, je voulais défendre.
Je suis critique, je sais. Je suis pas content.
J'essayais d'être positif, sinon de défendre l'action du gouvernement, mais manifestement, ça n'a pas marché. Merci, Gilles.
Bonne journée
du côté de la Seine-et-Marne. Evelyne est avec nous, qui habite Perpignan. Bonjour, Evelyne.
Bonjour, monsieur Proulx. Ben, merci, Gilles. Je pense exactement comme vous. Effectivement, on est un pays de râleurs, ça c'est vrai, mais il faut dire que depuis cette pandémie, le gouvernement, il a vraiment pas été à la hauteur du tout. Masque, pas masque, maintenant les masques, les masques en tissu sont plus valables, alors qu'on a demandé à des mamies dans des associations des journées entières de coudre des masques, etc. Et puis moi, un masque, c'est un masque. Je suis désolée.
Ah bah non, un masque, ce n'est pas un masque, si vous me permettez. Justement, un masque en tissu, ce n'est pas un masque chirurgical.
Enfin, franchement, ben bon.
Evelyne, moi, je me range derrière le corps médical.
Bah écoutez, moi si on me dit vraiment que les postillons ils passent vraiment à travers ce masque, je suis étonnée quand même. Je suis vraiment vraiment étonnée.
Enfin, bah, je en les cas, écoute en tout cas, je suis bien forcée de les écouter.
Alors on verra justement Monsieur Véran, 65 millions de, enfin c'est-à-dire tous les Français fin août devraient être vaccinés. Déjà on manque de vaccins partout. Partout. Il y a des gens, ils sont fait vacciner les premiers, ils attendent la deuxième injection, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils l'auront. Enfin, en tout cas, on a fermé des centres parce qu'il n'y avait pas de vaccin. C'est du n'importe quoi. Enfin, franchement, puis Pfizer, en ce moment, ils sont en train de se frotter les mains parce que non-stop, hein, 24 heures sur 24, ils sortent les doses, ça va rapporter.
Evelyne, dans cette séquence depuis le mois de mars, rien de ce qu'a fait le gouvernement n'a grâce à vos yeux ?
Ah ben, n'importe comment, depuis le mois de mars, bon, confinement, pas confinement, couvre-feu.
Non mais l'importante, la question, par exemple, le fait de payer chômage partiel, payer avec les aides de certains indépendants, payer les restaurants, est-ce que vous trouvez que c'est positif ?
Mais non, pas du tout, parce qu'il y a des tas de restaurateurs, des bars, des discothèques qui veulent ouvrir, ils veulent travailler, ils veulent pas rester.
Mais ils peuvent pas. Donc vous seriez sur le mode on rouvre tout.
Absolument.
D'accord. Donc vous, ce que vous remettez en cause, c'est toute la stratégie du gouvernement et de l'exécutif. On laisse tout ouvert.
Il y a des pays où on laisse ouvert les restaurants.
Lesquels?
Par exemple, Monaco, par exemple. Monaco, c'est pas un pays, mais enfin, déjà, il y a des gens qui allaient à Monaco pour aller manger au restaurant.
Oui, alors que c'est un micro-marché quand même, si vous me permettez, Monaco, Evelyne.
Oui, enfin, l'Espagne, ils ont ouvert aussi pas mal de restaurants.
La culture est ouverte en Espagne.
Ben voilà. Alors, je sais pas. En plus, bon, alors, dans ce cas-là, qu'on oblige, effectivement, avant de rentrer dans un cinéma, de porter leur HP2, là, je sais plus quoi, comme masque.
FFP2.
FFP2, voilà. Parce qu'on regarde dans le même... on regarde l'écran, quoi. Enfin, on regarde dans la même direction. On parle pas
non,
trop
mais ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est que les arguments donc du gouvernement ne passent pas. Les arguments brassage, donc auprès de vous, ça passe pas.
Et vous savez, quand on voit que au sport d'hiver, il va y avoir plus de 160 000 chômeurs, les grandes stations, les Menhirs, la Plagne, Val Thorens, tout Courchevel, toutes ces stations qui ne travaillent pas, c'est horrible. Alors ils sont tous en bas dans la station avec leurs raquettes. D'abord, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce qu'il y a des gens qui maintenant peuvent même plus, ils font de la luge, ils savent plus se maîtriser sur la luge. Non, c'est catastrophique, vraiment.
Non, mais c'est intéressant de vous écouter, Evelyne, parce que tous les arguments de l'exécutif ne passent pas. C'est-à-dire que l'argument des hôpitaux ne passe pas, l'attention des hôpitaux, ça passe pas, etc. Vous êtes sur tout rouvrir. C'est ça que j'entends dans ce que vous dites. Alors que donc vous n'y avez pas cru ou vous ne pensez pas que ce soit possible. Je ne vais pas les ressortir parce qu'on a l'impression de faire parfois les mêmes.
Le gouvernement, je ne crois pas.
Oui, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que les hôpitaux seraient en tension et que si on n'avait pas confiné, les gens mourraient dans les couloirs ou que si vous arrivez pour vous faire.
Quelle est la différence entre 18h et 20h, le couvre-feu? Attendez, est-ce qu'entre 18h et 20h, on va attraper le Covid? Mais je vois les gens, ils font la queue à la boulangerie le soir en sortant du travail. Il y a la queue jusqu'au bout du trottoir. Il y a un problème quand même.
Ben merci, Evelyne.
Les magasins Carrefour, tout.
Ah, Evelyne.
C'est les soldes.
Oui, que dites-vous, c'est les soldes? Parce qu'on vous a coupé, on ne vous a pas entendu pendant quelques secondes.
Oui, non, ça s'appelle. Là, en ce moment, c'est les soldes. En ce moment. Ben, Carrefour, j'en reviens pour. J'ai été chercher de l'encre pour mon imprimante. Il y avait un monde, mais j'ai dit, c'est pas possible.
Et oui, mais les gens sont masqués. Les gens sont masqués dans les grandes surfaces et respectent sans doute...
Voilà, ils sont masqués, mais avec n'importe quel masque, hein, je suis désolé, en tissu et tout, ils n'ont pas le FFP2, là.
Ah non, mais le FFP2, c'est pas obligatoire en France, le FFP2, c'est en Autriche et en Allemagne. Bon, Evelyne, merci. Merci, Evelyne. C'est moi qui suis obligé de défendre, vous rendez compte, Greg Caradoni. Je me fais l'avocat du diable, puisque je peux être parfois pour des mesures allégées. Souvent, on en a parlé autour de ce micro, mais je suis obligé de défendre la politique du gouvernement.
Vous êtes la nuance, c'est incroyable.
Vous trouvez ? C'est pas généralement ce qu'on me dit, souvent.
Ah bon ?
13h19, on recevra peut-être tout à l'heure Cyprien Sini pour On défait le monde. Il nous donne traditionnellement le programme. Le soir, entre 19h15 et 20h, émission avec Stéphane Carpentier.
Laurent Tessier, Marie Mollet, Brice Dugénie.
Que vous animez avec ce magnifique jingle.
Ah, vous l'aimez ce générique.
On l'entendra tout à l'heure, peut-être 13h19. Vous continuez sur le procureur. Il n'y a pas que ça. Il y a également les propos d'Olivier Véran hier soir. On l'a dit, il y a le hashtag #MeTooGay sur lequel vous pouvez réagir. Il y a Rémi Julienne et puis même tous les autres sujets. Hein. On peut parler évidemment de ce que vous souhaitez. C'est vous qui faites l'émission. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Si vous étiez à l'écoute hier des auditeurs, vous avez peut-être entendu Franck. Franck est marié et son épouse était allée à l'hôpital de Mantes-la-Jolie avec son père pour que son père soit vacciné. Et Franck nous a rapporté que ce monsieur d'un certain âge est resté 2 heures dans le froid alors qu'il est en chaise roulante. Écoutons ce qu'il nous disait hier.
Ma compagne a en fait accompagné ses parents hier à l'hôpital de Mantes pour se faire vacciner. Ça a mis 3 heures, dont près de 2h30 dehors. Et je trouve ça totalement anormal, n'est pas le mot, parce qu'il est trop faible. Son papa et sa maman, son papa est en fauteuil roulant. Mais je me demande dans quelle société on vit.
Alors hier, il était 13h30, je crois, ou 13h40, lorsqu'on a entendu Franck. On a essayé de joindre le maire de Mantes-la-Jolie. On n'y est pas arrivé hier, mais aujourd'hui, nous l'avons en ligne. Raphaël Cognet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le maire de Mantes-la-Jolie, maire républicain. Comment est-ce possible ?
Eh bien écoutez, sur le centre, quand la décision préfectorale a été prise d'ouvrir un centre de vaccination à Mantes, j'ai proposé un certain nombre de lieux qui sont des lieux municipaux, qui sont vides parce que les activités ont cessé, la plupart de nos activités associatives et municipales ont cessé. Et il m'a été répondu que c'était pas possible de les mettre dans ces lieux, qui étaient des lieux à mon avis beaucoup plus adaptés, tout simplement parce que il fallait une proximité logistique avec l'hôpital. C'est-à-dire qu'en gros, les vaccins, comme ils sont congelés, doivent être stockés dans certaines conditions et qu'il fallait être en immédiate proximité de l'hôpital. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est proposer des lieux qui me semblent beaucoup plus confortables pour que les gens puissent attendre dans de bonnes conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'on continue à travailler avec l'autorité régionale de santé. J'ai refait mes propositions de lieux et j'ai bon espoir qu'on puisse déménager ce centre qui, encore une fois, n'est pas fixé par le maire. Le maire, il peut proposer des lieux et c'est l'autorité régionale de santé qui décide. Il est évident que cet Algeco posé sur le parking de l'hôpital, même s'il permet de vacciner des gens, c'est déjà une bonne nouvelle. À mon avis, on peut faire beaucoup mieux. Donc moi, j'ai dit au préfet et à l'ARS que je me tenais à leur disposition pour prendre en charge l'ouverture dans un lieu municipal plus adapté. On a quelques soucis logistiques à régler. Vous savez, tout ça n'est pas simple. Hein. Il ne faut pas croire qu'il suffit de 4 murs pour ouvrir un centre de vaccination. Mais je pense qu'en tout cas, à Mantes, nous avons des lieux beaucoup plus adaptés qui permettent de vacciner les gens dans de meilleures conditions. On y travaille et j'ai bon espoir qu'on y arrive dans les jours qui viennent.
C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est toujours la même chose finalement. Vous, les maires, connaissez mieux votre terrain que les administratifs, mais vous êtes peu ou pas écouté parce que j'entends bien que le vaccin, il faut qu'il reste congelé. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi ceux qui viennent se faire vacciner qui sont congelés, si j'ose dire, parce qu'ils sont dehors, dans le froid. C'est un monsieur qui avait passé 80 ans dans une chaise sur une chaise roulante. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, il y a des gens devant l'Algeco, en plus il pleut aujourd'hui dans la région parisienne, et qui doivent attendre 1 heure ou 2 heures dans le froid et dans la pluie avant d'être vaccinés.
Alors déjà il fait un temps magnifique à Mantes-la-Jolie aujourd'hui, mais au-delà de la...
Il y a un microclimat, parce qu'à Paris...
Là ça va très bien. Alors honnêtement, tout le monde n'a pas attendu 2 heures, parce que c'est normalement sur rendez-vous, et franchement, je crois pouvoir dire que c'est un cas isolé. Ceci dit, Moi, je suis écouté par l'ARS et par le préfet. Honnêtement, je ne peux pas dire qu'on ne m'écoute pas et qu'on ne tient pas compte de mes avis. Ils ont des contraintes. De stock, de logistique, je les comprends, mais moi, par contre, je connais les lieux adaptés.
Donc, non, mais je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a toujours des gens dehors aujourd'hui, à l'heure à laquelle je parle? Est-ce
non,
qu'il y a des gens dehors?
Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, d'accord. Le premier problème que rencontrent les gens, c'est de prendre rendez-vous par Internet ou par téléphone, d'accord, avec des services qui sont très saturés. Et d'ailleurs, sachez que moi, j'ai mis mon service seigneur de la ville de Mende qui connaît nos seigneurs, qui est capable de les identifier, qui les a suivis pendant la crise Covid, parce qu'on a beaucoup d'agents et d'élus qui ont appelé les seigneurs pour savoir s'ils étaient en bonne santé. Je l'ai renforcé. J'ai dit aux gens, appelez le service seigneur pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour ceux qui n'y arrivent pas. Donc, encore une fois, les maires sont à la disposition de leurs administrés pour faciliter les démarches. On est dans une crise, il faut qu'on se serre les coudes. Mais effectivement, si on dit aux gens, faites-vous vacciner, et que les gens attendent 2 heures dans le froid, c'est pas possible. Donc,
bien
moi,
sûr,
j'utiliserai tous les moyens municipaux nécessaires pour que les gens puissent se faire vacciner dans de bonnes conditions.
Ce qui me frappe, monsieur Cognier, dans cette séquence, parce qu'on était également avec Serge Grouard, maire d'Orléans, et puis Martine Aubry de Lille et de ça, c'est l'engagement des maires sur le terrain. Et combien vous êtes sans doute les plus compétents pour mettre en place cette logistique, et que malgré cela, il y a des lourdeurs et même des impossibilités à la mettre en place. C'est ça qui me frappe à chaque fois avec les témoignages, parce que les maires sont incroyablement engagés. Même, ils savent, ils connaissent, ils savent tous les endroits de leur ville. Mais bon, ils ne sont pas
écoutés. Exactement. Moi, j'ai 45 000 habitants. J'ai un service senior qui connaît très bien ces seniors. Je les connais moi-même. Et honnêtement, on considère, et on est beaucoup à considérer la même chose, que notre boulot, c'est vraiment d'être dans l'action quotidienne, concrète et pragmatique. Et on est le bon échelon pour ça. Donc, il faut qu'on discute avec l'État. Mais honnêtement, tout le monde a envie de trouver des solutions. Et sur le déménagement du centre, j'espère qu'on va rapidement. J'y suis prêt, je mettrai les moyens.
Eh bien, merci. Et on va suivre.
Merci.
On va suivre parce que le déménagement, ça pourrait être quand? Alors, ça pourrait être parce qu'il faut aller vite maintenant.
J'espère que ça va aller vite. Ça pourrait être dans les jours qui viennent.
Dans les jours. En fait, ça devrait être fait lundi. Ça devrait être, c'est ça la difficulté.
J'espère que
ça devrait être fait
lundi.
Ce week-end.
Ah mais moi, si vous me demandez si je suis prêt à mobiliser des agents de nuit et le dimanche pour monter le nouveau centre, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Dès que j'ai le feu vert, je mettrai les moyens à disposition pour qu'on puisse le faire le plus vite possible.
On essaye de vous rappeler lundi pour suivre cet épisode. Et puis, on vous remercie de votre engagement qu'on entend à l'antenne et puis des solutions que vous apportez. Merci, monsieur Cognier.
Merci, monsieur Pro. Au revoir.
Il est 13h28. La pub. Et nous revenons sur les procureurs. Nous étions déjà des Gaulois réfractaires. Et maintenant, nous sommes des procureurs, a dit le président de la République. Pourquoi? Parce que certains critiquent, parce que certains ne sont pas d'accord, mais il y a peut-être une autre politique, une autre stratégie, une autre solution. Comme disait Christian Olivier, le débat c'est la vie. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Cyprien Sini vient souvent nous visiter le vendredi, mais vous êtes malade, Cyprien?
Non, j'arrive en scooter, donc j'ai mon
écharpe
et tout ça.
Mais
je n'ai pas encore passé par mon bureau.
Vous savez qu'au train où vont les choses, vous allez jouer à l'Olympique de Marseille. Hein. Vous allez avoir votre place finalement. Là.
J'en rêve.
Je pense que là, vous pourriez marquer des buts.
Vu ce qu'ils font en ce moment, oui, j'aurais pu jouer. Ouais.
Ah oui,
les deux derniers matchs, j'étais titulaire sans problème.
Le programme ce soir?
Ce soir, on défait le monde. 19h15, 20h, on sera aux États-Unis avec Brice Dugénie, qui a suivi l'investiture de Joe Biden et qui nous racontera le coronavirus là-bas. Vous savez que c'est très étrange. Il y a des États où le restaurant. Il y a des États où vous pouvez pas aller au restaurant.
Ah oui, c'est un État, ça s'appelle un État fédéral.
Donc Joe Biden signe plein de décrets, mais en fait.
Vous avez découvert l'Amérique.
Non,
mais il y a des États où aussi il y a la peine de mort, il y a des États où il n'y a pas la peine de mort, cher ami.
Ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, on pense qu'il va prendre les choses en main, mais finalement, il ne peut pas faire grand-chose par rapport au port du masque, etc. Donc c'est intéressant.
Voilà, et aucun président n'a autant de pouvoir dans un pays que le nôtre.
C'est-à-dire?
La 5ème République donne tous les pouvoirs à Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas évidemment aux États-Unis.
On va parler de voitures volantes aussi. Les taxis volants, vous savez que la RATP a lancé un appel d'offres.
C'est le jour avec la cascade, le décès de Rémi Julien, qui lui-même exerçait son métier avec des voitures volantes parfois, cascadeur qu'il était.
Là, j'espère qu'on ne fera pas de cascade, ça sera des voitures volantes pour vous et moi peut-être, ou pas. On aura un spécialiste avec nous qui nous le dira, je sens qu'il répondra.
Des voitures volantes, Anne Hidalgo a donné son accord?
Je crois que ça va être compliqué de survoler certains endroits. Ça va être passionnant, on vous attend, on va s'amuser, on va apprendre des choses.
Bon, merci beaucoup.
Et il y aura Laurent Tessier.
Évidemment, Laurent Tessier avec les la suite de ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux.
Le reconfinement, c'est pour quand? Les nouveaux variants plus contagieux du virus inquiètent. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a rien exclu hier soir aux 20h de TF1.
Nous continuons à traquer ce variant anglais partout où il se trouve. Si nous devions constater qu'il augmentait massivement et qu'il entraînait une vague épidémique, eh bien nous serions dans la même situation que celle dans laquelle se trouvent la plupart de nos voisins depuis des semaines et nous pourrions être amenés à prendre d'autres mesures type confinement.
Le reconfinement, vous ne voulez pas en entendre parler, il est inévitable. 32-10. 55% des Français ont l'intention de se faire vacciner selon notre dernier sondage BVA. Plus 11 points, c'est donc une forte progression. Et vous, vos avis dès maintenant au standard. Un sujet très difficile. Après MeToo, le hashtag MeTooInceste, le hashtag MeTooGay est l'un des sujets les plus commentés sur le réseau social Twitter. Des victimes de violences sexuelles au sein de la communauté gay témoignent. Des milliers de témoignages arrivent. Et si vous souhaitez prendre la parole dans l'émission, l'antenne est ouverte dès maintenant.
J'imaginais qu'on ne parle pas que de la sortie d'Emmanuel Macron et du mot procureur, mais il semble qu'au standard, vous appeliez en masse sur ce mot procureur. Donc Philippe est là, qui habite Nancy. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Meilleurs vœux déjà pour l'année.
Merci, c'est gentil. Jusqu'au 31, on peut. Donc manifestement, ce mot, il ne passe pas auprès de vous.
Ah bah non, pour moi, c'est du mépris. Là. Ce président, il est méprisant envers nous, quoi. Heureusement qu'on conteste ses décisions. Moi, ça fait, je vais vous dire, ça fait un an, hein. Qu'on a ce virus, j'ai jamais été testé. Si demain, il faut que je reconfine, j'ai 61 ans. Je suis asthmatique, je suis diabétique et j'ai de la tension. Et je pèse plus de 100 kilos, mais je travaille. On m'a jamais proposé de me reconfiner. Moi, je veux être confiné. Au contraire, qu'on confine les personnes âgées aussi, qu'on laisse nos jeunes tranquilles. Vous vous rendez compte, ce travail, hier, quand j'ai entendu M. Macron avec les étudiants, les propositions qu'il leur a fait. Je vous refais un plateau repas de 1 euro le soir. Non, mais on va où, là?
Philippe,
on est en train de tuer notre jeunesse, là.
Mais Philippe, alors d'abord, c'est bien de penser à la jeunesse, mais vous me faites peur. Vous travaillez tout le temps? Vous êtes routier, c'est bien cela?
Bien sûr.
Donc vous êtes au contact, j'imagine, de clients lorsque vous déchargez sûr. Votre camion?
Bien sûr.
Bon, et depuis un an, vous n'avez pas attrapé le Covid, et tant mieux pour vous?
Non. Bon, bah, j'espère pas l'attraper.
Mais
parce que moi j'ai peur quand même.
C'est... Bah je vous comprends et c'est pour ça que je m'inquiète pour vous si j'ose dire. Vous allez être vacciné, vous pouvez être vacciné rapidement?
Bah je sais pas. Je suis comme tout le monde, j'attends.
Bah que vous dit votre médecin traitant?
Bah pour lui on n'est pas dans les clous pour être vacciné.
Bah, si vous n'êtes pas dans les clous, je me demande qui va l'être. Parce que vous avez quand même des...
Bien sûr, si moi j'attrape
des paramètres.
Bah, moi, ça se terminera mal si j'attrape le Covid. Hein.
Bah, je vous trouve bien, bien courageux et...
courageux, j'ai pas le choix.
Bah, vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix de vous faire vacciner, peut-être, ou d'accélérer la vaccination.
Mais, la dernière fois que j'ai été faire le renouvellement de mon traitement, j'ai demandé au médecin. Je dis, il n'y a pas moyen de passer un peu par la porte à côté, là, pour se faire vacciner. Comme je travaille, je suis au contact des gens. L'autre coup, j'étais dans une entreprise, personne n'avait de masque. Je suis revenu chez nous, à ma boîte. J'ai vu, parce qu'on a un référent Covid, hein, la boîte. Je lui ai dit, écoute, moi, j'y vais plus dans cette société, parce que personne n'a les masques. Il les a appelés, mais il a dit, qu'est-ce que j'y passe?
Ben oui, mais là, c'est votre vie, Philippe, qui peut être en danger.
J'ai pas le choix, je dois travailler.
Ben vous avez le choix, attendez. Vous avez le choix de...
Moi, ça me fait rigoler,
Mais... Ben oui, vous rigolez, mais vous êtes bien, vous êtes bien courageux.
On a fermé les restaurants. Vous allez à Rungis, tous les restaurants sont ouverts à Rungis. Hein. Tous les routiers sont ouverts. Hein. Oui, les gens mangent à table, là, ils mangent pas dans les camions. Hein.
Oui, mais ils sont ouverts, c'est pas des restaurants clandestins, c'est comme des cantines, nous sommes d'accord, c'est dans des conditions
bien
très
sûr,
particulières.
Pourquoi nous on a le droit d'aller manger au restaurant et pas les autres?
Mais parce que vous êtes des professionnels et qu'il faut bien que vous mangiez. Alors qu'on considère que les autres peuvent s'arranger d'une manière différente.
Ouais, mais moi je vais vous dire, hein, ça fait un an quand j'entends les mesures qu'on prend là. Moi, je vais vous dire un truc, on a une carte vitale, d'accord? Sur la carte vitale, la Sécu, ils savent les gens qui ont des problèmes, qui sont à risque. Qu'on les confine, dans les hôpitaux, c'est des personnes qui meurent, ils ont plus de 65 ans. Ils sont déjà à la retraite. Donc on les confine et on lâche tout le monde, on laisse tout le monde travailler, on laisse tout le monde, les étudiants retourner à l'école. Vous vous rendez compte, c'est des jeunes qui ont fait des crédits pour payer leurs écoles. Et là, on va leur dire, vous y retournerez une fois par semaine. Mais attendez, on marche sur la tête.
C'est un débat qui avait été amorcé en mars, mais qui avait été tranché. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est constitutionnel de confiner une seule partie de la population. C'est pas facile.
Mais je pense que les personnes... Mais c'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui disent « Oui, mais c'est pas normal. » Mais pensez à nous, jeunes. Nous, on s'en fout maintenant. J'ai 61 ans, je m'en fous, moi, maintenant.
Bah, vous en foutez, c'est-à-dire...
Si vous avez vu, les jeunes, ils vont payer nos retraites, après.
Oui.
Si on les bloque déjà, là, c'est qui va payer nos retraites? Vous rendez compte, la casse que ça va faire, tous ces 600, là?
Bah, en tout cas, c'est bien de penser à ceux qui...
Mais moi, je pense qu'à eux, moi.
Mais moi, je vous invite à penser un peu à vous, Philippe, si vous me permettez. Mais
je peux rien faire.
Si, vous pouvez faire. Vous pouvez...
Dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, on ferme des centres de vaccination. On n'a pas les doses. On n'a pas les doses dans l'Est.
Merci Philippe, voilà, de votre témoignage. Merci beaucoup.
Ben, procureur, je le revendique et même plus que ça, moi. Monsieur Macron, tout à fait, il a joué sa réélection là, avec les Français qui nous lâchent.
Pardon, qu'est-ce que vous avez dit?
Monsieur Macron,
oui,
s'il veut se représenter, je pense qu'il ne passera pas, lui, avec toutes les Français qui nous lâchent. Là. Pour moi, il est méprisant, c'est une personne qui nous méprise.
Ben, merci en tout cas de votre avis, que vous avez exprimé sans embâche, comme on dit. Et nous allons marquer une nouvelle pause, 13h38, ça fait 35 minutes qu'on est quasiment que sur le mot procureur. Donc peut-être y aura-t-il d'autres sujets, je l'espère, en tout cas avant 14h30. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Faire l'exégèse d'un texte ou d'une phrase, nous dit le dictionnaire, c'est interpréter un texte dont le sens ou la parole ont été obscurs, sont apparus obscurs. Eh bien, ça concerne assez bien ce qu'a dit hier soir Olivier Véran. Je vous propose de l'écouter.
Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Ça, c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales. Ce serait évidemment une formidable nouvelle si tous ces vaccins étaient efficaces et que nous pouvions protéger la population française dans sa totalité en moins de 6 mois.
Donc vous voyez, ça commence bien, et puis à la fin, c'est atténué, il y a de la nuance, et à l'arrivée, on ne sait pas vraiment si les 66 millions de Français seront vaccinés à la fin du mois d'août. Vous pourrez réagir sur cette phrase. On n'a pas eu encore un auditeur précisément sur ce qu'a dit Olivier Véran hier. Donc nous poursuivons avec le procureur et c'est Marie-Agnès qui est là. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Oui, mais écoutez, j'ai écouté tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est d'un profond mépris, je pense qu'il fait sciemment. Hein. De toute façon, c'est pas...
Mais quel est son intérêt?
Comment ?
Quel est son intérêt s'il le fait sciemment ?
Vous savez, il aime bien les jeux d'esprit et tout ce que vous voulez, il aime bien ça. Moi, je pense, si vous voulez, il est tellement dans sa bulle. C'est quelqu'un qui, à qui, entre guillemets, tout a toujours réussi, qui a été, d'après ce qu'il dit, idolâtré par sa grand-mère. Hein, il ne se remet pas en cause. Il a pourtant été élevé dans une école catholique qui s'appelle la Providence à Amiens, où on vous dit qu'il faut faire quelquefois son examen de conscience et demander pardon. Lui, il ne sait pas ce que c'est que de faire un examen de conscience. C'est quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui n'a aucune conscience des réalités du quotidien des Français. Il a tout eu quand il a été au ministère. Après, il est allé chez Rothschild. Et alors, les Français ont été suffisamment.
C'était un peu avant. Il était d'abord chez Rothschild et après au ministère, mais.
Oui, mais après, bon, enfin bref. Mais c'est quelqu'un qui, en plus, qui ne sait absolument pas ce que c'est que la vie dans une entreprise privée, parce que bon, Rothschild, c'est quand même quelque chose à part, qui ne connaît pas la réalité.
C'est pas vraiment public, Rothschild, si vous me permettez.
Il a un mépris pour tout ce qui est les maires, pour les petits maires. Il n'a pas été élu et toute la clique qu'il a amené avec lui, tous ces. Rappelez-vous celui-là qui avait des problèmes de. Excusez-moi du terme, je vais être très vulgaire. Hein, j'ai 73 ans, mais je vais être très vulgaire. Qui a eu son problème de quéquette. Hein, il parlait des Français comme des fumeurs.
Vous parliez de celui qui s'est présenté à la mairie de Paris, Monsieur Griveau.
Monsieur Griveau. Mmh. Monsieur Griveau, Grivois. Mais bon, ça, c'est mon jeu de mots. Mais qu'est-ce que vous voulez, ils ont un mépris, ils sortent de ces écoles où on leur dit vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, vous êtes ceci, vous êtes cela, ils ne connaissent pas la réalité du quotidien. Et il faut s'appuyer sur les maires, il faut s'appuyer sur tout ça. Et la dame qui est intervenue en disant il faut déconfiner, là, moi je trouve que c'est absolument aberrant d'avoir mis tout le monde à 18h le soir, que l'on mette dans les régions ou les départements à tension ou dans les grandes villes, mais qu'on laisse les autres régions vivre. C'est comme le confinement, le premier confinement, vous aviez la moitié de la France qui n'avait rien et l'autre qui était malade. Et ben pourquoi on a confiné tout le monde? On a mis toute l'économie
Bon, je repose la question, Marie-Agnès, que je posais tout à l'heure, mais avant ça, puisque vous parliez de Benjamin Griveaux et que vous disiez qu'il avait un problème à un endroit précis, et sans vouloir entrer dans les détails anatomiques, il m'avait semblé que, précisément, il n'avait pas vraiment de problème, et c'était plutôt cela qu'il mettait en avant. Mais je referme, évidemment, la parenthèse. Marie-Agnès, en revanche, je posais cette question tout à l'heure à une auditrice, je crois. Rien n'agrace à vos yeux depuis, j'ai envie de dire, vous, le début du quinquennat, il n'y a pas une chose que vous appréciez?
Alors, je vais vous dire une chose, je n'ai pas voté pour lui.
Oui, ben ça, oui, donc comme ça, vous n'êtes pas déçu d'un autre côté.
Parce que
mais
moi,
sur la crise, là, par exemple, vous ne vous dites pas, tiens, il a changé, il a écouté, vous disiez les maires au départ, il ne les écoutait pas, et puis
non,
maintenant, il les écoute peut-être davantage. Rien n'a grâce à vos yeux.
L'autre jour, vous avez Juvin qui parlait, qui disait qu'il l'avait appelé plusieurs fois en lui disant il faut faire telle chose, telle chose. Mmh. Est-ce que vous trouvez que la manière dont on a été déconfiné au premier, il fallait déconfiner petit à petit et faire des tests? On a lâché tout le monde, on a dit allez-y, c'est la guerre.
Quand vous dites que vous n'avez pas voté pour lui d'ailleurs.
Que je trouve grave, c'est là, c'est le deuxième confinement. On a été mieux que les Allemands. Parce que j'ai une belle fille allemande qui s'arrache les cheveux parce que on dit l'Allemagne, mais l'Allemagne, ils sont pas confinés.
Ben, ils sont pas confinés, mais les règles sont strictes. Quand vous dites que vous n'avez pas voté pour lui, par exemple, au deuxième tour de la présidentielle, vous avez voté?
Oui.
Et donc, vous n'avez pas voté pour lui?
Non.
Ben, évidemment, le choix...
Ma vieille âme gaulliste, c'est beaucoup hésité.
Ah, vous avez voté, les gaullistes ont voté Marine Le Pen?
J'ai voté Marine Le Pen. C'est la première, oui. J'ai 73 ans et c'est la première fois.
Ce qui, effectivement, j'imagine que...
Ah mais je me suis fait engueuler par mes enfants, vous pouvez pas savoir, mais je suis pas encore nagaga gueux, ils allaient pas avoir une procuration, et j'y suis allée.
Et c'est vrai que...
Et mes enfants ont voté blanc.
Non mais c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que évidemment vous êtes représentative sans doute de quelques milliers de Français ou quelques centaines de milliers de Français, donc c'est intéressant de vous écouter pour cela. Bon bah écoutez, merci beaucoup Marie-Agnès.
Le seul truc que je lui donne grâce, là je vous dis, c'est
le deuxième confinement.
Bon. C'est là. Mais là, l'idée de nous confiner, nous les vieux, faut pas oublier qu'on fait marcher toutes les associations et que là, les associations, elles sont toutes en ralenti, hein, parce qu'il y a plus de vieux pour tenir les distributions de nourriture ou les distributions de vêtements.
Bon, vous êtes toute proche de la vaccination, vous avez 73 ans?
Bah oui, mais je suis encore jeune, je fais pas partie de la tranche à 75. Et
oui,
moi, j'ai un problème, je suis allergique. Alors c'est ça mon souci.
Bon, allergique à Emmanuel Macron, manifestement.
Non, oui, d'accord, en plus. Mais non, ça c'est autre chose. Non, je suis allergique à certains produits et j'ai très peur de... J'ai déjà fait deux édèmes de Quink, donc j'ai très peur du vaccin Pfizer. Voilà, c'est tout.
Bah,
Mais s'il faut le faire, je le fais. Hein. C'est la première fois de ma vie que je me suis fait vacciner contre la grippe. Hein.
Bon, en tout cas, c'est bien que vous disiez « je suis jeune ». Parce que parfois, j'entends des gens qui ont votre âge et qui disent « je suis pas jeune ». Et bien, vous dites « je suis jeune » et finalement...
Mais non, je suis encore jeune par rapport à nos grands-parents. Voilà, on fait plein de trucs.
Mais c'est
là,
la meilleure immunité.
Mais on vieillit parce qu'on commence à parler au mur. Je suis seule toute la journée on commence à parler au mur.
C'est-à-dire alors moi, je vais vous dire, je suis seule souvent aussi. Je parle au mur, mais c'est plus inquiétant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils me répondent.
Alors, dans moi, ils ne me répondent pas encore.
C'est ça qui m'inquiète, moi, quand je rentre.
Vous étiez très bien hier soir.
Ah bon, vous parlez dans la vie privée ou dans la vie publique?
Non, je parle à votre émission que j'adore.
Ah bon, vous êtes gentille, Marie.
Ok. J'aime bien vos petits dialogues, voilà.
Okay, bah, vous êtes gentille, Marie.
Bon week-end, reposez-vous.
Rarement une femme m'a dit ça, vous étiez très bien hier soir, c'est des choses que j'ai peu entendues dans ma vie. Merci Marie-Agnès.
Je vous en prie, au revoir.
Pascal, c'est le mur.
Oui,
ben oui, il est l'heure de faire la publicité.
Ah oui, le jour où le mur te répond, ça doit être quand même un peu déstabilisant. 13h49, la publicité, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier qui a inauguré un débrief dans notre émission tous les jours désormais aux alentours de 14h22, 14h23.
C'est du lourd aujourd'hui, hein. Mais vous avez été exceptionnel, comme les auditeurs et les auditrices.
Mais c'est les auditeurs qui sont formidables.
C'est un travail d'équipe, un collectif. Le célèbre cascadeur Rémi Julienne est décédé cette nuit des suites du Covid-19 à l'âge de 90 ans. L'homme aux 1400 productions. Il a notamment doublé Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore ou encore Sean Connery. Il est apparu au générique de 6 James Bond, mais aussi des classiques du cinéma français comme Le Mur de l'Atlantique, Le Solitaire, La Grande Vadrouille. Et il a doublé aussi Jean Marais sur le tournage de Fantomas.
Oui, c'est bien moi. Fantomas.
Bonjour Fantomas. Je t'aurai Fantomas. Avec Lord McCrashley.
Vous avez la parole jusqu'à 14h30.
Non, mais c'est formidable. Et son fils a repris la maison, hein, la boutique, si j'ose dire, parce que son fils fait des cascades, effectivement, aujourd'hui. Alors, la phrase de Véran. Intéressant, puisqu'on ne l'a pas encore interprétée. Nous sommes avec Aurélie, qui est infirmière dans le Maine-et-Loire. Bonjour Aurélie.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, vous allez bien ?
Écoutez, ça va bien, et vous ?
Bon, oui, ça va, merci.
Vous
merci
êtes libérale beaucoup. Ou vous êtes à l'hôpital ?
Non, je ne suis ni libérale ni à l'hôpital, je suis dans le secteur privé pour la mise en place de matériel médical et l'éducation des patients.
Bon, est-ce que, d'abord, comment vous avez interprété les propos de Véran, hier soir, d'Olivier Véran ?
Oh, je pense qu'il a voulu être rassurant, mais je ne suis pas sûre qu'il l'ait été.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que c'est un peu tôt pour être si optimiste. On aimerait bien être optimiste, hein, mais je ne suis pas certaine que la délivrance des doses, telle qu'il le dit, 9 millions, 20 millions, 30 millions, 43 millions, enfin voilà, je ne suis pas certaine à l'heure d'aujourd'hui que ça puisse aller aussi vite.
Il y a quand même des choses positives, c'est que le vaccin anglais, si j'ose dire, qui n'avait pas été homologué par l'Union européenne, a priori, il va être homologué très rapidement. Donc ça, ça va permettre d'avoir... c'est une question de jours. C'est une question de jours.
Ouais, mais avec les homologations, il faut y aller une fois qu'elles sont là, en fait. Hein.
Oui, mais je pense que là, c'est vraiment en très très bonne voie, parce que Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, le disait que c'est imminent.
Bon, eh bien, j'aimerais avoir votre optimisme.
Ah ben c'est moi je ne reprends que les propos du porte-parole du gouvernement. Mais et qu'est-ce
non,
que vous
je
avez
pense qu'il a voulu être rassurant et mettre un peu de l'eau sur le feu de tout le cafouillage autour des centres de vaccination et des problèmes de prise de rendez-vous, non pas par mauvaise organisation mais par manque de doses. Voilà.
Bon, en tout cas, manifestement, il ne vous a pas rassuré, vous. Et le vaccin anglais, c'est AstraZeneca. Voilà, ouais. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Anglais sont vaccinés plus vite que nous, parce qu'ils ne sont pas passés par l'homologation de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ils sont dépassés, je crois, les 4 millions de vaccins, alors que nous, on n'est pas encore à 1 million. Mais il est clair que le plus difficile, peut-être, ça a été le début de la campagne de vaccination et qu'ensuite, ça peut s'accélérer. Aurélie, même si c'est pas votre sentiment.
Eh ben j'aimerais bien. Et en attendant, eh ben je fais partie de ces 52% de Français qui seraient pour un confinement.
Mais c'est ça qui est frappant. Et pourquoi
la situation se dégrade rapidement là dans les hôpitaux. Ce matin, j'étais encore à l'hôpital d'Angers et ça se dégrade.
À quoi vous avez vu ça ?
Au nombre d'entrées de patients atteints de Covid dans les différents services et notamment en réa.
Et c'est une augmentation très sensible.
Importante.
Donc le personnel hospitalier d'Angers était inquiet ce matin des cas, des patients qui entraient.
Tout à fait.
Ben,
du
merci.
Nombre de patients entrant.
Ouais, merci Aurélie.
Et on n'est pas une région touchée. Hein. Pour le moment, pas hyper touchée. Hein.
Toutes les régions, visiblement,
et
sont...
Et on n'a pas d'immunité collective parce qu'on n'a pas encore été très touchés.
Toutes les régions, paraît-il, sont touchées de la même manière. Et j'écoutais Olivier Bost ce matin qui disait que précisément, il n'y aurait pas d'interdiction de se déplacer pour ces raisons-là, parce que tout le monde, en gros, et aujourd'hui, tous les départements sont touchés de la même manière. Merci Aurélie. Vraiment merci, de bonne journée Pascal. À vous. Elisabeth, merci. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
Les propos de Véran, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bah pour moi c'est du pipeau. Non, franchement, c'est. J'ai plus l'impression qu'il a donné ses. Comment ? Qu'il a dit ça pour rassurer la population, vu le moral en berne des Français. Et puis en plus, quand je vois que le matin, ou je sais plus quand, il avait dit, il était passé en commission, il avait dit comme quoi, bon, on arrivera à 15, 20 millions peut-être de personnes réussies à être vaccinées d'ici l'été. Et puis hop, le soir, il repasse à la télévision. Miracle, on nous dit qu'on aura 70 millions de doses pour avant la rentrée, on va dire, de septembre. Donc j'ai un gros doute. Et puis quand je vois aussi qu'il y a l'usine d'AstraZeneca qui en Inde qui fabrique les vaccins d'AstraZeneca où il y a eu un incendie, je me dis bon, alors c'est bien beau d'être optimiste, de nous dire on va avoir tant et tant et tant de doses, mais il faudrait peut-être attendre d'abord d'être sûr de les avoir.
Bien évidemment, mais ce que vous soulignez est juste, c'est-à-dire que hier après-midi, alors on peut jouer sur les mots, il a dit qu'on arriverait sans doute à vacciner les 13 ou 15 millions de gens fragiles avant l'été. Mmh. Mais le soir à 20h, il a dit que ce serait à la fin de l'été.
Voilà, donc
avant l'été, c'est une période on est toujours avant l'été d'une certaine manière. Mais en revanche, l'été, durant 3 mois, on peut accélérer après cette vaccination. Mais il faudrait aller vite parce que d'un côté, on aurait vacciné donc 13 ou 15 millions de personnes en gros jusqu'au 21 juin. Et du 21 juin jusqu'au 21 septembre, on vaccinerait 50 millions de personnes, c'est ça?
Voilà, et puis en plus, il oublie quand même qu'il y aura les vacances estivales, donc il y aura du personnel qui sera en moins. Il va nous sortir la poudre de perlimpinpin de Monsieur Macron.
Bah en tout cas, si effectivement on fait l'exégèse une nouvelle fois de ces deux phrases, on s'aperçoit qu'il va falloir aller vite cet été pour rattraper le temps perdu.
Bon, on ne le rattrapera jamais, le temps perdu. Ça, franchement, faut arrêter de rêver pour ceux qui croient, même le gouvernement qui nous dit sans arrêt, on va rattraper. Oui, bien sûr, on y croit.
C'est une phrase assez philosophique que vous venez de dire, Elisabeth. On ne rattrape jamais le temps perdu et en tout cas...
On passe plus de temps à courir après.
Merci à vous et en tout cas, ça va être le moment de la pub. Donc là, il ne faut pas perdre ce temps précieux. Greg, première heure terminée.
Les philosophes ont la parole.
Écoutez, les philosophes, faut les écouter en tout cas.
Absolument.
Il ne faut pas écouter que le sanitaire et que les médecins. Parfois, on peut écouter ceux qui portent un regard sur la société et la séquence que nous vivons. La publicité.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est un sujet grave sur les réseaux sociaux, hashtag MeTooGay, et il y a beaucoup de témoignages de jeunes gens qui, parce qu'ils sont gays, ont été parfois agressés. C'est le cas de Calvin qui nous écoute. Vous avez 19 ans, Calvin.
Bonjour Pascal, oui, c'est ça.
Et vous allez nous dire ce que vous avez subi, peut-être ?
J'ai subi une agression sexuelle quand j'avais 9 ans.
Vous allez nous raconter cela, si j'ose dire, dans une seconde, Olivier Bois.
Zinedine Zidane a été testé positif au coronavirus. C'est le Real Madrid qui l'annonce dans un communiqué sans plus de précision. Une évasion spectaculaire hier à Nantes, au CHU. Un homme qui venait d'être interpellé a simulé un malaise et 8 de ses amis, cagoulés, sont venus le libérer de force avec violence. L'un des membres du commando a pu être interpellé. Face au coronavirus, la France durcit les règles. À partir de dimanche, il faudra un test PCR négatif 3 jours avant de passer la frontière. Il y aura une tolérance pour les habitants transfrontaliers. Par ailleurs, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce que désormais les distances de sécurité sont augmentées. Vous êtes considéré comme cas contact si vous êtes à moins de 2 mètres d'un cas positif. Avant, c'était 1 mètre la distance. Ce qui change la donne, c'est la peur du variant anglais. Le ministre de la Santé l'a reconnu. Si sa propagation venait à s'accélérer, un troisième confinement pourrait devenir nécessaire. Et puis Rémi Julien est mort. Il avait 90 ans. Il a été emporté par la Covid, géant évidemment de la cascade. Dans le cinéma mondial, son nom apparaît au générique de 1400 films de la Grande Vadrouille à James Bond. Et puis du football, le PSG reçoit Montpellier ce soir à 21h. Le temps demain, il fera plus froid, 2 à 6 degrés globalement sur la moitié nord, 8 degrés dans le sud et un temps globalement instable sur la moitié ouest avec de la pluie. Ce sera plus ensoleillé autour de la Méditerranée.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous le disions avec Laurent Tessier tout à l'heure, c'est un sujet très difficile. Après hashtag MeToo inceste, le hashtag MeToo gay est l'un des sujets les plus commentés sur le réseau social Twitter. Des victimes de violences sexuelles au sein de la communauté gay témoignent, des milliers de témoignages arrivent. C'est le cas de Calvin qui a 19 ans et qui a subi une agression sexuelle. Peut-être, Calvin, ne faut-il pas entrer, j'allais dire, dans le détail de cette agression sexuelle ?
Non, oui, c'est quelque chose que j'aimerais encore garder pour moi. C'est assez compliqué d'en parler aujourd'hui, donc voilà.
Et je comprends tout à fait qu'on puisse effectivement passer sur ce que je disais, les détails qui n'ont pas lieu d'être entendus ici. Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Ben, vu que ça arrivait à un âge assez jeune, c'est quelque chose que j'ai enfoui, en fait. Et le problème, c'est que du coup, pendant très longtemps, ça faisait que de ressortir et ça a influencé en quelque sorte la manière dont je vivais ma sexualité. Parce que à chaque contact avec un homme, ça me rappelait ce moment-là et c'était assez désagréable, assez douloureux.
Et comment aujourd'hui vous vivez précisément votre sexualité ?
Un peu mieux, parce que ça fait longtemps, j'ai eu le temps de grandir, d'évoluer de cette épreuve, mais c'est toujours assez compliqué et puis on a toujours peur que ça réarrive un jour.
Vous avez pu en parler autour de vous ?
Oui, j'ai pu en parler avec mes amis et puis ça m'a beaucoup aidé de mettre des mots là-dessus.
Est-ce que vous pensez que dans ces cas-là, faut que des professionnels vous écoutent et c'est peut-être le cas
Je pense que c'est mieux d'aller vers des psys, des choses comme ça, des professionnels qui sont à même de traiter ce genre de choses. Après, je ne sais pas si je suis encore prêt pour franchir cette étape-là et creuser en détail ce qui s'est passé.
Vos parents, peut-être, vous ont accompagné ?
Bah, pas vraiment, mais je leur en veux pas. C'était pas un sujet et c'est pas quelque chose que j'ai manifesté non plus. J'ai jamais abordé vraiment le sujet avec eux parce que jusqu'à très récemment, je pensais que c'était quelque chose comme banal, en fait, que c'était pas grave.
Ben merci Calvin pour ce témoignage et vous allez pouvoir peut-être écouter Julien et échanger pourquoi pas avec lui. Bonjour Julien.
Bonjour.
Ce hashtag MeTooGay qui est en place depuis quelques heures et vous avez vous-même eu le besoin d'écrire sur Twitter et vous nous avez d'ailleurs contacté par Twitter Julien.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important, surtout ici, voilà, moi j'avais besoin de pouvoir partager par écrit. Je vois que c'est le moment et que d'autres le font aussi. Et donc je me suis dit, allez, c'est à moi, c'est le moment pour moi aussi de pouvoir partager à tous. Je n'en avais pas parlé à mes proches ou ni à ma famille. Et cette espèce disons, d'être ensemble, c'est ça, je crois. De lire ce que d'autres ont vécu de façon assez similaire, ce que moi-même j'ai vécu, je crois que ça m'a fait un bien fou de pouvoir partager ça.
C'est-à-dire que vous avez 30 ans et avant aujourd'hui, vous n'en aviez jamais parlé ?
Non, exactement, tout à fait. Alors, effectivement, moi, c'est plutôt d'attouchement sexuel auprès de mon propriétaire qui voulait, j'étais très flatté, comment dire, il voulait m'apprendre, une sorte de mentor, me donner des conseils, me faire partager son réseau et quelqu'un d'influent qui vivait dans le 16e. Moi, je venais d'arriver à Paris, je connaissais pas encore, je venais de province, avec des parents surendettés, j'arrivais dans le 16e, au Trocadéro, avec tapis rouge dans les escaliers. J'étais assez impressionné par lui et je me suis dit, il va pouvoir m'offrir des choses. Et il en a abusé de cette confiance. Et voilà.
Vous étiez majeur ?
C'était vraiment important. J'étais majeur, oui. Oui. Mais ce qui est vraiment important à dire, c'est que je crois que, qu'importe, il faut. Ne jamais accepter des demandes qui nous paraissent un peu étranges. Quand il y a quelqu'un qui te demande de te mettre nu parce que c'est un exercice qui permet d'être beaucoup plus fort. Non,
Non, non. Toucher le sexe de quelqu'un d'autre, c'est pas banal, c'est pas juste un exercice de allez, on est entre garçons et on se voilà, la vie elle est rude et voilà, on va jouer de ça et non, c'est pas un exercice, c'est pas un jeu. Et moi je l'ai vécu un peu comme ça au début, je me suis dit ah chouette, il va pouvoir m'apprendre, c'est un exercice un peu bizarre. OK, bon, allez, je vais me mettre nu, je vais apprendre à avoir plus confiance en moi. Et en fait, non, il a joué de cette faiblesse-là. Et vraiment, à tous ceux qui nous écoutent, vraiment, vraiment, absolument, votre corps est sacré. C'est pas un jeu, c'est pas un outil, c'est pas un...
Et comment s'est arrêtée la relation, alors ?
Déjà, le moment... voilà, j'étais bon, salon bourgeois. Et à ce moment-là... Son fils est arrivé dans le salon. Il a à peine vu ce qui se passait. Il est parti. Son père était en panique. Il s'est réhabillé. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, c'était pas un exercice ou quelque chose qu'il faisait aussi avec son fils ou ses potes. En fait, non. C'est qu'il me prenait comme un objet à caractère sexuel. J'étais son objet. Et vraiment, c'est lui qui m'a demandé de partir. Et je trouve ça bien. Voilà,
donc vous louiez peut-être une chambre, je ne sais pas, j'imagine une chambre de bonne, c'est ce que je comprends, dans le 16e arrondissement, chez ce propriétaire. Donc il vous a demandé de faire ce que vous venez de nous raconter, et à l'issue de cette séquence dans son salon, il vous a demandé de quitter la chambre de bonne, peut-être que vous louiez, c'est cela ?
Oui, c'est ça. C'est même une chambre de l'un de ses fils qui est devenu grand maintenant, et tout à fait.
Et après, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de cet homme ?
Je ne voulais pas en avoir, et lui ne m'en a pas donné non plus.
Et vous n'avez jamais eu le désir d'aller vers lui, soit pour qu'il y ait une explication, soit pourquoi pas pour faire une démarche juridique
Non, je crois que pour le moment, j'en suis pas encore prêt. Pour le moment, je pense à moi, je pense pas encore à lui, plus tard probablement. Pour le moment, c'est moi. D'accepter, d'en parler, de voir que des gens vivent des situations similaires et que ce n'est pas normal. Voilà, déjà, je pense à moi et ensuite, après, je verrai ce qui est possible, ce qui envisage, ce que j'ai envie de faire.
Bah écoutez, merci. Alors c'est un témoignage un peu particulier hein, dans ce hashtag MeTooGay, parce qu'il y a également beaucoup de gays, d'homosexuels qui témoignent des agressions dont ils ont été victimes en tant que gays. Hein, bien sûr, des brimades parfois, des violences qui se sont exercées sur eux. Et là, c'est encore un témoignage en parallèle de cela. Mais je vous remercie beaucoup, Julien, comme je remercie beaucoup Calvin.
Merci. Vous donner la parole.
Et peut-être que Calvin, en écoutant Julien, a retrouvé des points communs dans ce désir de ne pas mettre ce témoignage sur la place publique.
Ben oui, c'est exactement ce dans quoi je me retrouve, c'est que ça s'est passé avec différentes personnes dans différents lieux, dans différents contextes, mais sur le hashtag il y a cette même envie commune en fait d'exposer publiquement quelque chose qui s'est passé dont on parle pas assez, et ce sentiment de libération après en avoir parlé. Donc oui, ça, je me retrouve totalement dans ça.
Même si vos deux témoignages effectivement rapportent des agressions sexuelles, hein, et il n'y a pas que ce type de témoignage sur le réseau social Twitter, il y a également beaucoup de gays qui ont été agressés en tant que gays par des violences qui ne sont pas forcément sexuelles cette fois-ci, parce que vous êtes gay, des gens qui vous frappent ou qui vous insultent. Merci Calvin, merci Julien, il est 14h11.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Tout le monde en France connaît le nom de Rémi Julien. Tout le monde connaît peut-être son visage, mais son nom est apparu dans les années 60-70. Il était d'ailleurs très présent dans les émissions de variété où il venait raconter avec Michel Drucker et d'autres comment se passaient des cascades. Il a doublé Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore, Sean Connery, Jean-Paul Belmondo. Nous sommes avec Patrick, bonjour, qui souhaitait lui rendre hommage.
Bonjour Monsieur Pro.
Bonjour Patrick. Vous habitez Toulouse.
J'habite Toulouse et je fais un métier qui est
assez particulier sur Toulouse, puisque je suis producteur de cinéma. Donc, c'est vrai que ça ne coupe pas les rues à Toulouse. Mais il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer M. Julien. Ma dernière production que je faisais, qui s'appelle Quicksum, qui se tournait à Nice avec Michael Keaton, Michael Caine, nous avons eu la visite de M. Julien, car le directeur de production est un ami à lui. Et M. Julien adorait venir sur les tournages, bon, ça fait partie de sa vie. On avait besoin de... Bon, il ne nous a pas fait de cascade, hein. Il avait 70 ans, c'était en 2001. Il avait fini de faire des cascades, M. Julien. Par contre, nous avions son fils Dominique, puisqu'en fait, c'était son fils qui avait repris la suite de M. de Rémy, qui est venu nous conseiller sur les cascades que nous avions à faire sur ce film, qui était un film un peu policier, pas un peu beaucoup, je dirais même, un film policier. Donc, nous avons eu cette chance. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer, de l'inviter à déjeuner avec moi dans les studios de la Victorine, qui étaient à l'époque les studios de la Victorine. Nous avons passé un repas ensemble. Un homme, mais d'une simplicité, je l'ai fait parler, parce que bon, c'est vrai que bon, c'est agréable d'avoir un monsieur comme ça, qui m'a raconté des trucs de fou.
Par exemple?
Oh, mais bon, ses courses, sa course de moto, enfin, c'était un passionné. J'ai vu un vrai passionné. Il était là, on n'avait pas besoin. Hein. Il était venu que pour le plaisir. Hein. C'est sa passion. C'était sa passion. Voilà, je crois que des gens comme ça, on n'en rencontre pas tous les matins. Je vous avoue que bon, tout le monde était en admiration devant lui. Rémy Julien, le grand Rémy Julien, mais qui lui, par contre, était comme vous et moi, je pense, des gens simples.
Un des meilleurs cascateurs du monde, puisque pour qu'il soit appelé sur les films de James Bond.
C'est de la marque qu'il a formé. Ça a été le meilleur cascadeur du monde, je pense, oui. Mm. Après, moi, j'ai fait d'autres films avec John Woo. C'est encore autre chose, hein, puisque j'ai fait un très gros film d'Artagnan avec Catherine Deneuve, entre autres. Sur Toulouse, 50 millions de dollars. Donc là, on avait John Woo dans les cascades. On n'avait pas Rémy Julien parce que c'était pas son style. Mais c'est vrai qu'au niveau tout ce qui est cascade voiture, d'ailleurs, il en avait un très 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 mauvais souvenir. C'était Taxi 2. Taxi 2 l'a traumatisé puisqu'il est passé au tribunal puisqu'il y avait eu un mort sur ce tournage. Et je vous avoue qu'il n'avait pas une amitié exceptionnelle avec Besson. Hein. Il n'avait pas apprécié la façon dont cette affaire s'était terminée pour lui, puisqu'il avait été condamné, alors qu'il y était pour rien, la pauvre. Mais bon, de toute façon, mais c'était un fou de cascade, c'était sa vie. Voilà. Moi, personnellement.
C'est un caméraman qui était mort.
Absolument.
A priori, c'était. Voilà.
À la sortie d'un tunnel. Et c'est lui qui a été accusé, hein. Il a quand même pris, il avait pris 5 ans avec sursis, enfin un truc de fou, quoi. Bon, et ça s'est fini bien à l'arrivée, mais ça l'avait quand même un petit peu traumatisé à M. Julien.
C'est-à-dire qu'une des voitures du film avait réalisé un saut plus long que prévu et percuté la caméra et les personnes qui l'entouraient, dont Alain Dutartre était décédé de ses blessures.
Absolument.
Merci Patrick d'avoir rendu hommage à Rémy Julien. Michel est là également, bonjour.
Bonjour.
Qui nous a contacté via Facebook, parce qu'on peut évidemment nous appeler par les réseaux sociaux.
Absolument. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Michel. Votre mari était cascadeur.
Mon mari a été cascadeur, oui, Moustache. Vous qui êtes nantais, peut-être avez-vous entendu parler de Moustache, cascadeur. C'est lui qui était dans la Deux Chevaux de Bourville, dans le Corniaux.
Lorsqu'elle explose.
Voilà.
Et que Bourville aurait dit la légende, une phrase qui n'était pas dans le scénario, « Oh ben, moi bien marché !» Et paraît-il que ce n'était pas écrit.
Et ce n'était pas écrit du tout, oui, effectivement. Et c'est José Canga qui était dans la Rolls. Et donc, j'entendais le précédent auditeur parler de, effectivement, Rémy Julien et de Gilles Delamarre. Et c'est vrai que cette cascade du Corniaux, elle a été faite par mon mari et par José Canga tout à fait par hasard, dans la mesure où Gilles Delamarre à l'époque était au Brésil, et quand Gérard Houry a appelé Gilles Delamarre, il ne pouvait pas se déplacer en France, et mon mari et José Canga à l'époque étaient en train de faire un tournage en Italie, et comme il y avait de la neige et que c'était censé être une séquence d'été, ils ont pu remonter sur Paris, et ils ont donc fait la cascade du Cornio. Gérard Houry à l'époque, c'était la fin, enfin c'est tout le début du film, mais ça s'est tourné complètement à la fin du tournage. Et à l'époque, à l'inverse de Rémy Julienne qui a eu, je dirais, les honneurs des génériques, je dirais que cette époque-là, les cascadeurs étaient des gens de l'ombre encore.
Mais cette cascade, elle est quand même pas trop dangereuse, celle du film dont vous parlez, parce que la voiture arrive pas trop vite quand même sur la deux chevaux.
Alors il y a eu.
Et je crois qu'il y a qu'une prise. Moi j'ai toujours entendu dire qu'il y avait qu'une prise parce que comme elle explose la deux chevaux, on pouvait pas la refaire.
Eh ben non.
Ah bon ?
C'est-à-dire il y a eu d'abord deux tournages avec deux chevaux, et cette troisième deux chevaux avait été bien sûr préparée par un chimiste pour pouvoir s'éclore en 7 secondes. Mais et bien évidemment quand cette deux chevaux préparée s'ouvre en 7 secondes, Bourvil bien évidemment est dedans. Mais il y a eu avant deux autres tournages. Et d'ailleurs, mon mari racontait toujours... Mon mari est décédé le 7 décembre 2010. Hein.
André Hubert.
Pardon ?
C'est André Hubert.
Et voilà.
10 moustaches.
Voilà, absolument. Vous en savez des choses.
J'ai tapé moustache cascadeur très vite, pour tout vous dire.
Je me doute.
Et je me suis dit que les auditeurs pourraient avoir cette information.
Voilà, c'est gentil. Oui, effectivement, c'était bien André Hubert, son nom d'état civil. Mais ce qui était drôle, c'est que cette séquence-là a été tournée pendant les grèves. Il y avait des étudiants qui faisaient la grève à côté de l'école, à côté de l'église Sainte-Madeleine. Et puis, il y a même eu quelqu'un qui est venu, qui n'avait pas vu que c'était un tournage de cinéma et qui venait pour servir de témoin au chauffeur de la deux chevaux. Donc, mon mari allait puisque c'est lui. On le voit, enfin, il avait bien sûr une perruque de Bourvil, il avait la chemise de Bourvil, il avait la veste de Bourvil. Voilà, donc c'est des souvenirs. Moi, j'ai quand même travaillé en quelque sorte dans le monde du spectacle, puisque j'ai pris un an de... Je suis enseignante de métier et j'ai pris un an de disponibilité 73-74 pour accompagner mon mari. Et on avait fait à l'époque la Réunion pendant un mois, les Indes, Bombay et l'Australie presque en entier. On a fait et on a eu un accident. Je comprends tout à fait quand monsieur disait tout à l'heure que Rémy Julienne a été extrêmement traumatisé par l'accident mortel sur le tournage de Taxi 2. Nous, on a eu un très très grave accident dans le désert australien, dans une ville qui s'appelle Broken Hill, là où il y a les mines d'or, et il y a eu un grave accident avec un jeune Français qui passionné.
Eh bien, merci, Michel.
C'est le mot passion qui est important.
Merci, Michel, d'avoir rendu hommage d'abord à tous les cascadeurs et votre mari aussi, et à travers ce soir, aujourd'hui, la mort de Rémy Julienne, ce qui nous permet de réécouter peut-être cette séquence mythique lorsque Bourvil conduit sa deux chevaux.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ce qui est drôle, c'est de qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voiture étant lambeau.
C'est marrant, je m'attendais à ce que vous fassiez une imitation sur elle va marcher beaucoup moins bien, forcément, et finalement.
Mais bon. Non, mais hier, vous m'avez taquiné avec mon imitation de Sacha Guitry, donc vous avez dit que ça ressemblait à Frédéric Mitterrand, donc maintenant je fais attention. 14h23, le débrief.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Allons-y, cher Laurent, ça vous a plu ce que nous avons dit pendant une heure et demie ?
Vous avez été formidable. Breaking news aujourd'hui, les amis, l'émission change de nom.
Non pas les auditeurs ont la parole, les procureurs ont la parole.
Et une phrase d'Emmanuel Macron vous a énervé au 32-10.
Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs.
Ils découvrent que le pouvoir, quand on est chef de l'État, c'est que tout ce qui merde en dessous de vous, c'est de votre faute. Sans vouloir offenser le président de la République, qui est un génie incompris, on va dire ça comme ça, ce qui explique ces petites phrases comme ça, où il a du mal à comprendre qu'on le comprenne pas et qu'on adhère pas à tout ce qu'il dit.
Et vous ne le savez peut-être pas, mais cette émission, oui, est internationale. Pascal passe ses matinées à une activité.
En tout cas, je lisais la presse allemande ces dernières heures. Et
pour gagner plus d'auditeurs...
Dans sa traduction, il y avait derrière, vous me faites passer pour un cuistre.
Mais vous êtes prêt à faire vraiment l'émission en plusieurs langues.
Finish ein kleines Kind lerne ich Deutsch.
Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Heureusement, à la rédaction, certains d'entre nous parlent allemand. Nous avons traduit vos propos.
J'aimerais vraiment que toute l'équipe des auditeurs ont la parole soit augmentée en cette année 2021 car ils travaillent dur et le méritent vraiment.
Formidable, merci à vous Pascal. Et dans cette émission, vous devez aussi vous justifier sans arrêt.
Je me fais l'avocat du diable puisque je peux être parfois pour des mesures allégées. Souvent on en a parlé autour de ce micro, mais je suis obligé de défendre la politique du gouvernement.
Vous êtes la nuance, c'est incroyable.
Vous trouvez c'est pas généralement ce qu'on me dit souvent.
C'est pas possible.
Des sujets polémiques, mais aussi des points météo réguliers, c'est important.
Déjà, il fait un temps magnifique à Mantes-la-Jolie aujourd'hui, mais au-delà de la...
Il y a un microclimat, parce qu'à Paris...
Là, ça va très bien.
La météo à Mantes-la-Jolie dans l'émission aujourd'hui. On adore aussi faire des petites devinettes pour nous faire deviner, par exemple, un politicien. Marie-Agnès n'y a pas été par quatre chemins.
Rappelez-vous celui-là qui avait des problèmes de... Excusez-moi du terme, je vais être très vulgaire. J'ai 73 ans, mais je vais être très vulgaire. Qui a eu son problème de quéquette. Hein, il parlait des Français comme des fumeurs.
Vous parliez de celui qui s'est présenté à la mairie de Paris. Monsieur Griveaux.
Monsieur Griveaux. Mais bon, ça c'est mon jeu de mots.
Voilà, jeu de mots, mais au fur et à mesure, on a senti, Pascal, avec Marie-Agnès, que vous vous rapprochiez, quelques confidences arrivent.
On vieillit parce qu'on commence à parler au mur. Je suis seule toute la journée, et on commence à parler au mur.
C'est-à-dire, mais alors moi, je vais vous dire, je suis seule souvent aussi, je parle au mur, mais c'est plus inquiétant, vous savez pourquoi? Parce qu'ils me répondent.
Très inquiétant, effectivement. Mais après plusieurs minutes, l'ambiance avec Marie-Agnès devient vraiment chaude.
Vous étiez très bien hier soir.
Bon, dis donc, petit cachotier, monsieur Pro, rassurez-nous.
Rarement une femme m'a dit ça, vous étiez très bien hier soir, c'est des choses que j'ai peu entendues dans ma vie.
Ah là là, sacré coquin ce Pascal Pro. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Comme dirait Paul Naref.
Génial cette chanson. Et c'est une chanson incroyablement prophétique. L'écran de mon ordinateur, etc. Je parle à des gens qui écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Je crois que cet album-là, c'est fin des années 70, Goodbye Mary Lou.
De toute façon, quelle que soit la chanson, tant que c'est les années 70, c'est génial.
Mais arrêtez. Mais c'est une sublime chanson de Paul Naref. 14h28. Flavie est avec nous ?
Elle arrive.
À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.